Chapitre 14. Le soir, lorsque Claude descendit pour le dîner, il s'était revêtu d'un calme apparent qui lui coûtait le plus grand effort, mais que Miss Picknell trouva du meilleur goût. S'imaginant que tous les artistes ont le tempérament volcanique et fort peu de retenue, elle avait craint qu'une terrible scène, depuis qu'Olive lui avait appris les événements du matin. Les yeux battus de Claude éveillèrent sa compassion. Elle témoigna au jeune homme une certaine attention délicate et fut aux petits soins pour lui pendant tout le repas. Olive, déjà habillée pour aller au théâtre, paraissait un peu fiévreuse et n'en était que plus jolie. Quant à M. Ferrol, il paraissait dévoré du désir d'exprimer quelque chose, rassemblait son courage entre chaque bouchée, toussait, rougissait, mais ses préparatifs n'aboutissaient à rien. On en était arrivé au dessert, qui consistait modestement en quelques oranges, lorsqu'un bruit de roue, suivi d'un grand coup de sonnette, fit tressaillir toute la maisonnée. M. Ferrol se leva comme mu par un ressort. « J'avais à vous dire, à vous prévenir, dit-il, qu'une de mes cousines... la voici !» Il se tourna vers Olive d'un air suppliant. « J'espère que vous ferez bonne connaissance !» Olive fronça légèrement le sourcil à ce mot de cousine. Un pas martial retentit dans le corridor, la porte de la chambre voisine s'ouvrit et l'on entendit la bonne demander quel nom il fallait annoncer à madame. « Miss Mélonée, mais je n'ai pas affaire à madame, c'est monsieur Ferrol que je veux voir !» répondit une voix énergique, agrémentée d'un léger accent irlandais. Avec ce timbre-là, Miss Maloney ne saurait être jeune, pensa Olive. Je suis sûre qu'elle a l'air dragon et une terrible paire de moustaches. Monsieur Ferrol se leva. Sa confusion était pénible à voir. Je désirais vous expliquer, commença-t-il. Mais un bruit étrange s'éleva dans la pièce voisine. On eût dit qu'une main virile battait le rappel avec les pincettes. L'infortuné cousin de cette impatiente cousine n'acheva pas son discours et se hâta de sortir. Miss Picknell endurait malaisément qu'on fît irruption chez elle et que, par surcroît, on dit à la bonne qu'on n'avait pas affaire à madame. Elle prolongea le dîner autant que possible et lorsqu'enfin elle passa au salon, ce fut d'un air de majesté hautaine qui eût fait honneur à la duchesse de Marlborough elle-même. Miss Mélonée était assise près du feu, étendant sur les chenets un pied d'une héroïque grandeur, mais chaussée d'un soulier de satin fort élégant. Elle avait jeté sur le dossier de la chaise une superbe pelisse de renard bleu, dans l'ample opulence de laquelle se noyaient les contours de sa taille maigre. Deux beaux diamants brillaient à ses oreilles, leurs feux attirèrent immédiatement les regards d'Olive. Miss Mélonée avait les cheveux d'un blond grisâtre et le teint assorti. Elle n'était ni jeune ni vieille, ni jolie, ni positivement laide. Son nez hésitait entre tous les types, et finalement se décidait à n'en adopter aucun. Mais si ses traits étaient indécis, ses manières ne l'étaient point. Elle avait l'air d'une personne qui a fait sa volonté toute sa vie et qui est bien décidée à ne pas changer de système. Olive, presque sans lever les yeux, l'avait déjà analysée. « Quand on a les bras si maigres, on devrait les cacher. Que de bracelets, on dirait une idole. »« Je vous en prie, faites bonne connaissance, » murmura de nouveau M. Ferrol en passant derrière elle. La jeune fille songea tout à coup que cette cousine, qui pouvait avoir 45 ans aussi bien que 30, était peut-être la marraine de M. Ferrol, ou sa dame de bon secours, ou bien une parente à héritage. Elle eut une vision, ce beau saphir entouré de perles qui brillait au poignet droit de Miss Mélonée. Elle s'imagina le voir au milieu des présents de noces, avec une carte portant ces mots « De la part de Miss Mélonée, votre tante affectionnée ». Car Olive la prierait de se laisser appeler tante, cela rendrait les relations plus faciles. Cependant, M. Ferrol ayant accompli les présentations de la manière confuse qui lui était propre, Miss Mélonée inclina la tête sans cérémonie en réponse au salut étudié que lui fit Miss Picknell. Celle-ci revenait peu à peu de ses préventions Elle avait été élevée, en bonne anglaise, à respecter la richesse comme la parure du vrai mérite, et les fourrures de Miss Mellonay indiquaient évidemment une parfaite respectabilité. « Je suis bien sûre que mon cousin, dit Miss Mellonay, ne vous avait pas annoncé ma venue. Il a de la présence d'esprit 15 jours trop tard. Je suis arrivée en ville ce matin, je l'ai relancé dans son affreux trou du stand, et, apprenant qu'il irait ce soir à Covent Garden, je lui ai offert d'être de la partie. Il en a été naturellement enchanté, et me voici. Êtes-vous prête ? Poursuivit cette impétueuse personne en se levant avec brusquerie. Ma voiture est là qui nous attend depuis des heures. Dépêchez-vous, mes chevaux vont attraper une fluxion de poitrine, et moi, qui suis membre de la Société pour la protection des animaux. Vous en êtes aussi, j'espère ? Fit-elle en se tournant vers Olive. Non, mais je n'ai jamais fait de mal à une mouche. Les jeunes personnes réservent toute leur cruauté à l'autre sexe, je sais cela, dit sèchement Miss Mellonay. Olive ne put s'empêcher de rougir et trouva sa future tante fort désagréable. Monsieur Ferrol s'agitait silencieusement, pareil à une âme qui cherche du repos et n'en trouve nulle part. Il partageait ses attentions entre les trois dames avec une scrupuleuse équité et semblait le plus timoré et le plus malheureux des hommes. Olive surprit un regard pathétique qui lui lançait. Il s'attarda longtemps en lui mettant son manteau sur les épaules et soupira d'une façon mystérieuse. Quand on fut installé dans la voiture, un joli coupé à quatre places, Miss Mellonay, de sa manière brusque et impétueuse, donna à la conversation un tour personnel qui semblait lui plaire infiniment. Elle raconta qu'elle avait passé plusieurs années sur le continent, mais que des circonstances de famille l'avaient rappelée en Angleterre et qu'elle était maintenant établie à Richmond, dans sa propre campagne. « Elle a fait un héritage, » se dit Olive. « Mon cousin aime beaucoup Richmond, » ajouta Miss Mellonay. « C'est égal, » pensa Olive, « nous n'irons pas y demeurer. Miss Mellonay prendrait des airs protecteurs. » Monsieur Ferrol se contentait d'incliner la tête d'une façon peu compromettante. Durant tout le trajet, il ne leva pas les yeux une seule fois. Son abattement était si grand qu'on eût dit un prisonnier des Amazones conduit par elle au dernier supplice. Resté seul au logis, Claude en profita pour préparer son départ. Il n'avait pas une si grande quantité des biens de ce monde qu'il ne put les enfermer tous dans une malle de dimension médiocre. L'emballage fut vite terminé, la petite chambre modeste à laquelle des livres sur l'étagère, une écritoire et quelques bibelots, souvenirs de voyage, donnaient un air d'intimité hospitalière, reprit bien vite sa physionomie de garnie, froide et banale. Le jeune homme s'assit sur sa malle et regarda autour de lui. Que lui disaient ces murs, dépouillés des quelques gravures qu'il y avait suspendues une année auparavant? Il semblait murmurer que la première étape de sa vie était franchie, qu'il la laissait derrière lui, avec des souvenirs doux ou poignants qui s'y enlaçaient, comme les liserons aux vrilles tenaces s'enroulent autour de la barrière qu'on vient d'escalader. La route de Claude, à ce brusque tournant, l'emmenait en plein inconnu. De nouvelles perspectives s'ouvraient devant lui, mais il abandonnait les scènes et les figures familières et chéries qui, peu à peu, s'enfonceraient dans le brouillard du passé. Il leur dit un long adieu. La tête appuyée sur ses mains, dans le silence de la maison déserte, il revit ce qui n'avait pu être et n'avait palpité un instant que dans ses rêves. Pendant une heure encore, la dernière, il s'entretint avec des ombres charmantes qui lui avaient tenu si fidèle compagnie jusqu'alors. Puis il se leva comme pour les congédier. « C'est fini, » dit-il, et il lui sembla qu'une lourde porte se refermait sur le passé. Il se mit au piano. Il voulait le faire résonner encore une fois entre ces quatre murs qui avaient entendu souvent d'étranges improvisations. Mais ce soir, ni le musicien ni son instrument ne vibraient. On assure généralement que l'heure de l'amertume est pour l'artiste celle de l'inspiration, que sous l'étreinte de la douleur, l'âme crie et s'épanche en beaux vers, en beaux accords. Mais cette légende ne devrait-elle pas aller rejoindre celle du chant du cygne ? Dans le plus fort de la lutte, quand tout l'être frémit et se débat, la faculté artistique est paralysée. on ne saurait à la fois souffrir et chanter sa souffrance. Plus tard seulement, lorsque l'âme froissée se replie sur elle-même, elle analyse ses impressions avec l'instinct secret d'unité qui la guide toujours, elle se dégage de sa peine et, par une manipulation mystérieuse, elle en distille le parfum caché. Claude Forest n'essaya pas de traduire en musique le tumulte de ses sentiments. Tout ce qu'il souhaitait, c'était de leur échapper. Il choisit parmi ses cahiers la plus ardue des suites de Bach et contraignit son esprit à diriger la lutte de ses doigts contre les difficultés du mécanisme. Lorsqu'Olive rentra avec Miss Picknell, elle entendit de grands accords retentir dans la chambre de Claude. « Le voilà tout consolé, pensa-t-elle. La musique lui suffit. » Sa bouche se contracta légèrement et quand M. Ferrol s'approcha d'elle pour lui enlever sa pelisse, elle se détourna avec impatience. Mais elle se ravisa aussitôt. « Nous avons passé une bien agréable soirée, » dit-elle en faisant briller sur M. Ferrol son plus séduisant sourire. « Tant mieux, » répondit-il faiblement. Et il s'enfuit.